Jean-Pierre Vincent.
L'histoire vous regarde, les morts vous regardent. Ils se sont battus pour qu'on vive. Ils nous regardent, ils nous adressent quelque chose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une époque où de plus en plus de gens ne savent pas ce qui s'est passé il y a plus d'une semaine. Nous avons aussi un devoir de maintenir le sentiment de l'histoire, le sentiment du... comme ça, de l'histoire des sentiments humains.
Ça peut pas faire de mal.
Shakespeare arrive à vous raconter, dans la même phrase, dans le même mot, ce qui se passe au plus profond d'un être, ce qui se passe dans son rapport avec la société, avec sa famille, avec le cosmos, avec les morts, avec ceux qui sont pas encore nés. C'est un modèle intellectuel et poétique qu'on ne peut pas surpasser.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Il y a des hommes océans, des ondes, ce flux et ce reflux, ce va-et-vient terrible, ce bruit de tous les souffles, ces noirceurs et ces transparences, ces végétations propres au gouffre, cette démagogie des nuées en plein ouragan, ces aigles dans l'écume, ces merveilleux levées d'astres répercutés dans on ne sait quel mystérieux tumulte par des millions de cimes lumineuses, têtes confuses de l'innombrable, ces grandes foudres errantes qui semblent guetter, ces sanglots énormes, ces monstres entrevus, ces nuits de ténèbres coupées de rugissements, ces furies, ces frénésies, ces tourmentes, ces roches, ces naufrages, ces flottes qui se heurtent, ces tonnerres humains mêlés au tonnerre divin, ce sang dans l'abîme, puis ces grâces, ces douceurs, ces fêtes, ces gaies voiles blanches, ces bateaux de pêche, ces champs dans le fracas, ces ports splendides, ces fumées de la terre, ces villes à l'horizon, ce bleu profond de l'eau et du ciel, cette âcreté utile, cette amertume qui fait l'assainissement de l'univers, cet âpre sel sans lequel tout pourrirait, ces colères et ces apaisements, ce tout dans un, cet inattendu dans l'immuable, ce vaste prodige de la monotonie inépuisablement variée, ce niveau après ce bouleversement, ces enfers et ces paradis de l'immensité éternellement émue, cet insondable. Tout cela peut être dans un esprit. Et alors, cet esprit s'appelle génie. Et vous avez Eschyle. Vous avez Isaïe, vous avez Juvénal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange et vous avez Shakespeare. Et c'est la même chose de regarder ces âmes ou de regarder l'océan. C'était un extrait de William Shakespeare, une biographie en forme de glorification écrite en 1864 par un de ses grands admirateurs, Victor Hugo. Ce soir, seconde émission consacrée donc au génie de la dramaturgie anglaise, celui pour qui le monde était ce théâtre où chacun doit jouer son rôle. La semaine dernière, nous explorions le Shakespeare dramaturge de l'amour. Aujourd'hui, c'est son théâtre du pouvoir que nous allons découvrir ensemble. Terrible continent de lutte, de meurtre et de folie que nous allons aborder d'abord par son versant comique, avant d'entrer au cœur de la tragédie des rois et de leurs ennemis. Toujours en compagnie de Florence Viala et d'Éric Ruff. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Commençons par une satire du pouvoir, extrait de La Tempête, acte 1, scène 2. Roi de Naples en exil, victime de l'imposture de son frère, Prospero vit avec sa fille Miranda sur une île déserte. Grâce à ses pouvoirs magiques, il provoque une tempête et fait échouer ses ennemis afin de se venger d'eux et de rétablir ses droits. Au début de la pièce, une violente dispute oppose Prospero, symbole du colonisateur autoritaire, et son esclave indigène, Caliban, dont le nom est un anagramme de cannibale. Écrite en 1611, la pièce de Shakespeare n'oublie pas la leçon de Montaigne sur le mythe du bon sauvage. Mais ce sauvage est bien plutôt un vrai petit diable, et le pouvoir de Prospero, un pouvoir magique, illusoire et éphémère.
Viens, nous allons faire visite à Caliban, mon esclave, qui n'a jamais pour nous une réponse aimable.
C'est une vilaine créature, monsieur, que je n'aime pas à regarder.
Mais en l'occurrence, nous ne saurions nous passer de lui. Il fait notre feu, va chercher notre bois et accomplit d'utiles besognes. Hola, esclave. Caliban, parle, terreau.
Il y a assez de bois à la maison.
Sors de là, te dis-je. J'ai un autre travail pour toi. Allons, tortue, décide-toi. Vénimeuse esclave que le diable engendra en besognant ta vicieuse mère, sors.
Que la plus pernicieuse rosée jamais recueillie par ma mère en peignant un bourbier malsain d'une plume de corbeau s'abatte sur vous deux. Que le vent du sud-ouest souffle sur vous et vous couvre de pustules.
Pour ceci, sois-en sûr. Tu auras cette nuit des crampes et des points de côté à perdre le souffle. Les lutins, pendant ce long temps de la nuit qu'ils ont permission de travailler, s'exerceront sur toi. Tu seras couvert de pinçons aussi drus que cellules de miel, chacun d'entre eux plus cuisant qu'une piqûre d'abeille.
Il faut que je mange mon dîner. Cette île est mienne de par ma mère, Sycorax, et tu me l'as prise. Au premier jour de ton arrivée, tu me caressais, tu faisais cas de moi. Tu me donnais de l'eau avec des baies dedans. Tu m'apprenais le nom de la grosse et de la petite lumière qui brûle le jour et la nuit. Si bien que je t'aimais, je te montrais toutes les richesses de l'île, les sources fraîches, les salins, les lieux arides, les lieux fertiles. Je veux être maudit pour avoir fait cela. Que s'ébattent sur vous tous les charmes de Sycorax, crapauds, scarabées, chauves-souris, car je forme tout votre peuple. Moi qui naguère était mon propre roi, et vous me confinez comme un pourceau en ce dur rocher, me dérobant tout le reste de l'île.
Esclave menteur que le fouet seul peut émouvoir, non la bonté. Je t'ai traité, tout ordure que tu sois, avec sollicitude. Ne t'ai-je pas logé dans ma propre grotte, jusqu'au jour où tu cherchas à violer l'honneur de mon enfant ?
Oh, si la chose avait pu se faire, tu m'en as empêché, sans quoi j'aurais peuplé l'île de petits calibans.
Esclave abhorré, réfractaire à toute empreinte du bien et capable de tout mal, je t'ai pris en pitié. Je me suis donné la peine de t'apprendre à parler, de t'enseigner à toute heure une chose ou l'autre, alors que toi-même, sauvage, ne connaissais pas ta propre pensée. Alors que tu allais jacassant comme une brute, j'ai doté tes intentions de vocables qui les pussent exprimer. Mais ta vile nature, encore que tu apprisses, avait en elle quelque chose d'insupportable pour des caractères droits. Et c'est pourquoi tu as été avec justice confiné dans ce roc, toi qui avais mérité plus qu'une prison.
Vous m'avez appris à parler, et tout le profit que j'en ai tiré, c'est de savoir maudire. Que la peste rouge vous emporte pour m'avoir enseigné votre langage.
Hors d'ici, graine de sorcière. Va nous chercher du bois. Et tu feras bien d'aller vite, afin d'être prêt pour d'autres besognes. Tu bronches, malice ? Si tu négliges ou fais de mauvais gré ce que j'ordonne, je te torturerai de crampes séniles. Je criblerai tes os de douleur et te ferai glapir de telle sorte que les bêtes sauvages frémiront à ce vacarme.
Non, je t'en supplie. Je dois obéir. Son art est si puissant qu'il dompterait le dieu de ma mère, Sétébos, et ferait de lui son vassal.
Allons, esclave, hors d'ici.
Continuons avec le fantasme du pouvoir, extrait de La Nuit des Rois ou ce que vous voudrez. Shakespeare aurait écrit cette comédie entre 1599 et 1601. L'action se déroule sur les côtes d'Illyrie, l'actuelle Croatie. Après le naufrage de leur navire, deux jumeaux, Viola et Sébastien, échouent à deux endroits différents. Ils se rendent chacun de leur côté à la cour du duc Orsino. Viola se déguise en homme et se présente au duc sous les traits de Cesario. Le duc l'engage immédiatement pour être son page, ce qui ravit Viola, secrètement amoureuse de son nouveau maître. Mais elle déchante quand le duc lui demande de plaider sa cause auprès de la comtesse Olivia. Nous voici à l'acte 2, scène 5. L'entourage de la comtesse Olivia a décidé de jouer un mauvais tour à l'insupportable Malvolio, son intendant, en lui faisant croire qu'il est aimé de sa riche et puissante maîtresse. Et voici Malvolio en train de rêver à voix haute, en seigneur condescendant, tandis qu'à l'écart, les farceurs, Sir Toby et Sir André, l'écoutent et chuchotent. Ce n'est qu'une question de chance. Tout est dans la chance. Maria m'a dit un jour que l'on me portait intérêt et elle est allée jusqu'à dire en personne, je l'ai entendu, que si elle devait tomber amoureuse, ce serait de quelqu'un dans mon genre. D'ailleurs, elle me traite avec une considération plus marquée que n'importe qui de sa suite. Que dois-je penser ?
Que de prétentions chez ce misérable.
Corbleu, je le rosserai.
Être
comte Malvolio.
Oh, maroufle.
Canardons-le.
Il y a un exemple de ça. La dame de Stachy a épousé l'huissier de sa garde-robe.
Fille de lui par Jézabel.
L'ayant épousé depuis 3 mois, assis sous mon dais.
Oh, une arbalète pour le frapper dans l'œil.
Appelant mes officiers autour de moi, dans ma simarre de velours à ramages, venant de quitter le lit de repos où j'ai laissé Olivia endormie.
Feu et soufre.
Alors je prends un air de hauteur, et après avoir gravement promené sur un regard qui veut dire que je connais ma position et que je désire qu'ils connaissent la leur, je demande... Mon parent Toby.
Chers Éliens.
7 de mes gens, d'un élan obéissant, vont le chercher. En attendant, je fronce le sourcil. Et par aventure, je remonte ma montre. Ou je joue avec quelques riches joyaux. Toby s'approche. Je fais une révérence.
Ce drôle vivra-t-il ?
Je lui tends la main comme ceci, tempérant mon sourire familier par un sévère regard d'autorité.
Et alors Toby ne te flanque pas un orillon sur les lèvres ?
Et je lui dis, cousin Toby, ma fortune, en m'octroyant votre nièce, m'a conféré cette prérogative de parole.
Écoutons.
Il faut vous corriger de votre ivrognerie.
Oh, la peste, le galeux !
En outre, vous gaspillez le trésor de votre temps avec un imbécile de chevalier.
C'est moi, je vous le garantis.
Un sire André.
Je le savais bien que c'était moi. Car bien des gens m'appellent imbécile.
Quelle affaire avons-nous là ? Sur ma vie, c'est l'écriture de madame. C'est bien ainsi qu'elle fait le C, le O et le N. Et je reconnais son P magistral. Il est hors de doute que c'est là son écriture.
Le C, le O, le N, comment cela ?
Au bien-aimé qui s'ignore, ceci avec mes encouragements. Oh, typiquement ces expressions. Avec ta permission, sire, tout doux, ce sceau à l'effigie de Lucrèce, elle s'en sert pour cacheter. C'est madame. À qui ceci est-il destiné ? Comme le sait Jupiter, j'aime, mais dire qui je n'ose, aux lèvres restées closes, je dois le taire. Qu'est-ce qui vient ensuite ? Il y a un changement de maître. Je dois le taire. Et si c'était toi, Malvolio ?
To be or not to be, that's the question, but not to me, because I know I'll always be in love with you. I see that you're the one, and I'm positive you'll agree, because I'll always love you just the way I do. I will put it like Mr. Romeo, when he entered the balcony, he said, Juliet, my fiancée, how'd you like to marry me? To be or not to be, that's a question, but not to me, because I know that very soon we'll be a happy family.
when he entered the balcony. What he said, Juliet, my fiancé, how'd you like to marry me? To be or not to be, that's the question, but not to me, because I know that very soon we'd be a happy family. To be or not to be, that's the question, but not to me. Flowers for Mr. Shakespeare.
Un peu de lecture.
Ça peut pas faire de mal.
Je suis sûr que s'il faillit, tu ne prendras pas sa chair. À quoi te servirait-elle ?
À appâter le poisson. Si elle ne nourrit rien d'autre, elle nourrira au moins ma vengeance.
Être tout-puissant et se venger de ceux qui nous oppriment, c'est là le terreau de l'ambition politique. Continuons à écouter la complainte de ceux qu'on humilie. Voici un des extraits les plus connus de Shakespeare, l'acte 3, scène 1 du Marchand de Venise. Comédie écrite vers 1596-1597. Il s'agit d'une très célèbre tirade, donc inspirée à l'usurier Shylock, par les humiliations que lui font subir ses débiteurs, et en particulier Antonio, marchand de Venise, qui se croit autorisé à le traiter avec mépris parce que Shylock est juif. Naît alors dans le cœur du vieillard le désir de vengeance.
Il a ri de mes pertes, il s'est moqué de mes profits, il a méprisé ma nation, contrarié mes affaires, éloigné mes amis, excité mes ennemis, et pour quelle raison ? Je suis juif. Un juif n'est-il pas Dieu ? Un juif n'a-t-il pas de mains, d'organes, de proportions, de sens, de sentiments, de passions ? Ne mange-t-il pas les mêmes choses ? N'est-il pas blessé par les mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé et refroidi par le même été, le même hiver que l'est un chrétien ? Si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas ? Si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? Si vous nous empoisonnez, ne mourrons-nous pas ? Et si vous nous faites injure, est-ce que nous ne nous vengerons pas ? Si nous vous ressemblons pour tout le reste, nous vous ressemblons en cela. Si un juif fait injure à un chrétien, celui-ci le supporte-t-il humblement ? Vengeance. Si un chrétien fait injure à un juif, comment celui-ci devrait-il le supporter, à l'exemple des chrétiens ? Eh bien, vengeance. La vie lénie que vous m'enseignez, je vais la mettre en pratique. Et ce sera bien le diable, si je ne renchéris pas sur ce qu'on m'a appris.
À ceux qui rêvent de pouvoir, il ne manque plus que l'occasion. Et lorsqu'elle se présente, il faut savoir la saisir à pleine main.
Hail, king that shalt be.
This have I thought good, to deliver thee, my dearest partner of greatness.
Extrait d'une des plus célèbres tragédies de Shakespeare, Macbeth, écrite en 1606. Selon la légende, prononcer le mot Macbeth dans un théâtre porte malheur. C'est pourquoi les acteurs évitent de prononcer son nom et utilisent la périphrase « la pièce écossaise » ou en anglais « the Bard's Play ». Nous sommes à l'acte 1, scène 5. Macbeth, baron de Glamis, est un valeureux guerrier dévoué à son roi, loyal et bon. Il s'entend prédire un jour par trois sorcières qu'il sera baron de Cawdor et roi. Lorsque la première partie de la prophétie se réalise, il se met à se rêver sur le trône d'Écosse et l'écrit à son épouse. Et cette simple lettre métamorphose Lady Macbeth en une toute nouvelle femme.
Elle vinrent à ma rencontre au jour du succès et j'ai appris de sources sûres que leur savoir dépasse la connaissance humaine. Au moment où je brûlais du désir de les questionner davantage, elles se sont changées en air et s'y sont évanouies. Alors que j'en demeurais saisie d'étonnement, arrivèrent des messagers du roi qui me proclamèrent baron de Cawdor. Le titre même dont ces sœurs fatales venaient de me saluer, elles qui m'avaient renvoyé au temps à venir, au cri de « Salut à toi qui seras roi », voilà ce que j'ai jugé bon de te mander, ma très chère compagne de grandeur, afin que tu ne sois pas privée de ta part légitime de joie en étant tenue dans l'ignorance de la grandeur qui t'est promise. Réfléchis à tout cela. Adieu. Glamis, tu l'es, Cawdor aussi, et tu seras ce qui t'est promis. Mais je crains ta nature. Elle est trop pleine du lait de la bonté humaine pour aller droit au but. Tu voudrais la grandeur, mais ton ambition n'a pas la malfaisance qui doit l'accompagner. Ce qu'ardemment tu désires, tu voudrais l'obtenir saintement, jouer franc jeu, tout en gagnant à tort. Tu voudrais, grand Glanis, ce qui crie « voici ce qu'il faut faire pour l'obtenir » et ce que tu préfères craindre de commettre plutôt que de souhaiter ne l'avoir pas commis. Accours, que j'infuse mes ardeurs à ton oreille, et pour que la valeur de ma langue châtie tout ce qui te détourne de ce cercle d'or dont le destin et le secours surnaturel semblent vouloir te couronner.
Et voilà comment de bons et loyaux sujets deviennent des régicides. Passons maintenant à une réflexion sur les limites de l'homme politique. Réflexion livrée par Shakespeare dans « La tragique histoire d'Hamlet, prince de Danemark ». C'est la plus longue et la plus célèbre tragédie de Shakespeare, écrite entre 1598 et 1601. L'intrigue en quelques mots. Hamlet est le fils du roi du Danemark. À la mort du souverain, le frère de celui-ci, Claudius, le remplace sur le trône. Mais un soir, Hamlet aperçoit le spectre de son père qui lui annonce que c'est Claudius qui l'a tué. Dès lors, Hamlet va tout faire pour venger son père. Nous voici à l'acte 1, scène 3. Laërte, fils de Polonius, conseiller du roi, part pour la France. Il fait ses adieux à sa sœur, Ophélie, tout en la mettant en garde contre la personnalité d'Hamlet, contre les dangers du pouvoir.
Tout ce dont j'ai besoin est embarqué. Adieu. Et ma sœur, lorsque les vents seront favorables et qu'un départ s'y prêtera, ne dormez pas, mais donnez-moi des nouvelles.
En doutez-vous.
Quant à Hamlet et à son galant badinage, ne voyez là qu'usage dont un sang vif s'amuse. Violette de jeunesse au printemps de la vie, précoce et non tenace, suave et sans durée. Le parfum est la distraction d'une minute, pas plus.
Pas plus, vraiment ?
Croyez-le bien, pas plus. Car l'être en grandissant ne croit pas seulement en taille et en vigueur, mais quand s'accroît le temple, le service, au-dedans de l'esprit et de l'âme, se fait plus large aussi. Il se peut maintenant qu'il vous aime, et qu'alors point de tache ni de rouerie ne souille la vertu de ce qu'il veut, mais vous devez craindre, vu sa grandeur, que ce qu'il veut ne soit pas sien, car lui-même est assujetti à sa naissance. Il ne peut, comme font les gens sans importance, se servir à son gré, car de son choix dépend la santé et l'équilibre de l'État tout entier. Ainsi, son choix doit-il rester dans les limites du suffrage et de l'assentiment de ce corps dont il est la tête. Alors s'il dit qu'il vous aime, il est sage pour vous de ne le croire qu'autant que, dans la condition qui est la sienne, il peut faire ce qu'il dit. Et cela ne va pas plus loin que l'assentiment général du Danemark ne le suit. Pesez donc ce que peut y perdre votre honneur si vous prêtez oreille trop confiante à ses chansons ou perdez votre cœur ou bien ouvrez votre chaste trésor à son ardeur indiscrète et sans retenue. Craignez-le, Ophélie. Craignez-le, chère sœur. Et tenez-vous en retrait de vos sentiments, hors de portée des coups et dangers du désir. La plus prudente fille est déjà bien prodigue pour peu qu'elle dévoile sa beauté à la lune. La vertu même n'évite pas les calomnies. Le ver rongeur s'attaque aux enfants du printemps trop souvent avant même que s'ouvrent leurs boutons. C'est la jeunesse à l'aube et sa rosée limpide que menacent le plus les miasmes contagieux. Soyez prudente, donc. Craindre est la sûreté la meilleure. Envers soi, la jeunesse est rebelle quand rien autre n'est là pour se dresser contre elle.
La substance de cette vertueuse leçon veillera sur mon cœur. Mais mon bon frère, n'allez pas comme un de ces pasteurs dévoyés me désigner du ciel l'épineux rédillon, et vous, en libertin suffisant sans scrupule, parmi les primes vers, suivre la voie folâtre, n'ayant au cure de votre propre prêche.
Oh, n'ayez crainte.
J'aimais Ophélie. Quarante mille frères ne sauraient avec toute leur tendresse égaler mon amour. Qu'es-tu prêt à faire pour elle?
Fou, Laërte.
Par le sang, montre donc ce que tu veux faire. Vas-tu pleurer, combattre, jeûner, te lacérer toi-même, boire du poison, manger un crocodile? Fais peu. L'as-tu ici pour pleurnicher, pour me braver en sautant dans sa tombe? Fais-toi enterrer vivant avec elle, j'en fais autant. Et si tu parles de montagnes, qu'on déverse des millions d'arpents sur nos corps.
Guillaume Gallienne sur France Inter.
Ça peut pas faire de mal.
There's a road in my mind. I've been watching for a long time. It's the muddy Mississippi and the yellow dandelion. From the Hudson to Missouri, in the mosses and red clay, I can feel the rhythm call me from a thousand miles away. Let me go.
Les pièces de Shakespeare sont pleines de trahison. La quête de pouvoir détruit jusqu'aux sentiments filiaux. Extrait de la tragédie Le Roi Lear, créée en 1606 devant le roi Jacques Ier. Inspiré des légendes celtiques, Lear est un autre rôle mythique immortalisé par de grands interprètes comme Laurence Olivier et Orson Welles. Nous sommes à l'acte 2, scène 2. Le roi Lear a donné toutes ses terres à ses filles, Regan et Gonril. En échange, elles lui ont promis de l'accueillir, lui et sa suite de 100 chevaliers, chacune 6 mois par an. Mais Gonril, dès lors qu'elle est entrée en possession de son héritage, revient sur sa parole et réclame que son père divise le nombre de ceux qui l'accompagnent par 2. C'est divisé par 2 le statut de roi de son père, qui en est profondément blessé et croit trouver un cœur plus fidèle chez Regan. Ma fille, je t'en prie, ne me rends pas fou. Je ne t'importunerai plus, mon enfant. Adieu. Nous ne nous fréquenterons plus, ne nous verrons plus. Mais cependant, tu es ma chair, mon sang, ma fille. Ou bien plutôt un mal qui se trouve dans ma chair, qu'il me faut appeler mien. Tu es un abcès, un ulcère de la peste, ou un furoncle enflé dans mon sang corrompu. Mais je ne te blâmerai pas. Que la honte vienne à son heure. Je ne l'appelle pas. Je ne réclame pas les coups du porte-foudre, ni ne te dénonce à Jupiter, le juge suprême. Amende-toi quand tu pourras, corrige-toi à loisir. Je peux être patient, je peux séjourner chez Regan, moi et mes 100 chevaliers.
Non, pas exactement. Ne vous attendant pas si tôt, je ne peux pas vous faire un accueil convenable. Sire, écoutez ma sœur, car ceux qui mêlent leur raison à vos passions sont bien forcés de vous trouver vieux, et ainsi... Mais elle sait ce qu'elle fait.
Est-ce là bien parlé ?
Sire, j'ose l'affirmer. Quoi, 50 suivants ? Ce n'est-il pas bien ? Pourquoi en faut-il plus ? Ou même autant ? Puisque le coup et les périls plaident contre un si grand nombre, comment en un même lieu tant de gens vivraient-ils en bonne intelligence sous 2 autorités ? C'est difficile, presque impossible.
Pourquoi donc, monseigneur, ne pas être servi par les gens de ma sœur ou par les miens ?
Pourquoi pas, monseigneur ? S'ils venaient à vous manquer d'égard, nous pourrions les reprendre. Si vous venez chez moi, car je vois le danger maintenant, n'en amenez que 25, je vous en conjure, pas un de plus, je n'en veux loger ni connaître.
Je vous ai tout donné.
Et il était bien temps.
Fait de vous mes protectrices et mes dépositaires. Mais avec la réserve que j'aurai une suite de tant de chevaliers. Quoi, faut-il aller chez vous avec 25 ? Avez-vous dit cela, Regan ?
Et je le redis, monseigneur, pas un de plus chez moi.
Les créatures méchantes paraissent tout de même aimables devant plus méchants qu'elles. Ne pas être le pire mérite quelques louanges. J'irai donc avec toi. Tes 50 font quand même le double de 25, et ton amour 2 fois le sien.
Écoutez, monseigneur, qu'est-il besoin d'une suite de 25, 10 ou 5, sous un toit où 2 fois ce nombre de gens ont ordre de vous servir ?
Qu'est-il besoin d'un seul ?
Ah, ne discutez pas le besoin. Elle est en superflu, la chose la plus vile des mendiants les plus pauvres. Restreindre la nature à ses seuls besoins, c'est ravaler une vie d'homme au bas prix d'une bête. Tu es une dame, si avoir chaud était en soi splendide. La nature n'a pas besoin des splendeurs que tu portes sans guère te tenir chaud. Mais le besoin véritable, ô cieux, rendez-moi patient, de patience j'ai besoin. Vous me voyez ici, ô Dieu, pauvre vieillard, chargé de peine autant que d'ans, double détresse. Si c'est vous qui montez contre leur père le cœur de ces 2 filles, ne me faites pas assez sot pour l'endurer en lâche. Animez-moi d'une noble colère. Ne laissez pas des pleurs, larmes des femmes, souiller mes joues viriles. Non, furie dénaturée, je me vengerai de vous de telle façon que le monde entier sera. Je ferai de ces choses ce qu'elles sont, je ne sais pas encore, mais elles seront la terreur de cette terre. Vous attendez mes pleurs. Non, je ne pleurerai pas. J'ai toutes les raisons de pleurer. Mais ce cœur se brisera en 1000 et 1000 morceaux avant que je ne pleure. Oh, bouffon, je vais devenir fou. Folie ou lucidité, les 2 états s'alternent et se mêlent chez les grands personnages de Shakespeare. Voici un autre extrait du Roi Lear, acte 3, scène 2. Retrouvons le roi, donc, chassé hors de chez lui par ses filles. Il erre dans la campagne avec pour dernier compagnon son bouffon, tandis qu'un terrible orage éclate.
Soufflez vent jusqu'à crever vos joues. Faites rage, soufflez, déluges et trompes. Jaillissez jusqu'à submerger nos clochers, noyer nos girouettes. Ô vous, feu sulfureux, prompt comme la pensée, avant-coureur de la foudre qui fend les chaînes, flambez mes cheveux blancs, et toi, tonnerre sismique. Aplatis l'épaisse rotondité du monde, brise les moules de la nature, et détruis sur l'heure tous les principes qui produisent l'homme ingrat.
Oh, tonton, de l'eau bénite de cour dans un logis au sec vaut mieux que cette eau de pluie au dehors. Gentil tonton, rentre, demande la bénédiction de tes filles. Voilà une nuit qui n'a pitié ni des sages ni des sots.
Va, gronde tout ton seau, crache, jaillis, pluie. Vous n'êtes pas mes filles, pluie, vent, tonnerre et feu. Ô élément, je ne vous accuse pas de méchanceté. Je ne vous ai pas donné de royaume, ni appelé enfant. Vous ne me devez aucune soumission. Que tombe alors l'horreur de votre bon plaisir. Je suis là, votre esclave, pauvre vieillard infirme, faible et méprisé. Je vous taxe pourtant de servile complaisance. Vous qui joignez à deux filles malfaisantes vos bataillons célestes, comme une tête aussi vieille et chenue que celle-ci. Oh, oh, c'est immonde.
Celui qui a un toit sur la tête a un bon couvre-chef.
Non, je serai le parfait modèle de toute patience. Je ne dirai rien. Que les grands dieux qui font là-haut ce vacarme terrible découvrent maintenant leurs ennemis. Tremble, misérable. Toi qui recèles des crimes cachés que la justice n'a pas encore fouettés. Cache-toi, toi main sanglante, toi qui t'es parjurée, et toi l'incestueux qui simule la vertu. Écroule-toi, fripouille, qui sous le couvert trompeur d'une apparence honorable a attenté à la vie humaine. Culpabilité murée et secrète, brisez le contenant qui vous cache et demandez grâce à ces huissiers terrifiants. Je suis une victime du péché, plus que pécheur moi-même. Ma raison commence à divaguer. Viens, mon garçon. Comment va, mon garçon? Tu as froid? Moi aussi, j'ai froid. Où est cette paille, camarade? Nos besoins possèdent un art étrange qui transmue les choses viles en choses précieuses. Venez, votre cabane, pauvre bouffon, petit gars. J'ai encore dans mon cœur une partie pour te plaindre.
Qui a d'esprit quelques lueurs s'exclame, ah ah, il pleut, il vente, accepte tout heure et malheur, même si la pluie est quotidienne.
C'est vrai, gamin.
Most potent, grave, reverend thing.
Scott Fitzgerald dit Othello.
My very noble and approved good master. But I have taken away this old man's daughter, with most.
Et voici maintenant un chant du cygne, celui de Richard II dans la pièce éponyme, acte 4, scène 1. La pièce est une fresque historique composée en 1595 et inspirée par Richard II d'Angleterre qui a régné au XIVe siècle. Dans l'extrait suivant, le roi Richard se rend à l'évidence. Il n'y a plus d'espoir pour lui. Il doit abdiquer au profit de Bolingbroke, duc de Hereford. Le comte de Northumberland lui tend un papier qui signera sa fin.
Monseigneur ?
Je ne suis pas ton seigneur insolent qui m'outrage, ni le seigneur de personne. Je n'ai pas de nom, pas de titre. Non, pas même ce nom qui me fut donné au baptême, qui ne soit usurpé. Hélas, jour de douleur. Avoir traversé tant d'hivers sans savoir à présent de quel nom m'appeler. Oh ! Que ne suis-je un simulacre, un roi de neige, debout devant le soleil de Bolingbroke, pour me fondre en gouttelettes d'eau et disparaître. Bon roi, grand roi, sans grande bonté cependant, si ma parole a encore cours en Angleterre, qu'elle fasse porter ici un miroir sur le champ, pour que je puisse y voir comment est mon visage, maintenant que sa majesté a fait banqueroute.
Que l'un de vous aille chercher un miroir.
Lisez ce papier en attendant le miroir.
Des mots qui me tournent avant que je sois en enfer. J'en lirai bien assez. Assurément, rien qu'à voir le livre même où tous mes péchés sont écrits. Car ce livre, c'est moi. Donnez-moi ce miroir que j'y lise. Oh. N'ai-je donc pas encore de rides plus profondes? La douleur m'a donc frappé tant de fois au visage, sans y laisser blessure plus profonde. Ô miroir flatteur, comme mes courtisans pendant les jours prospères, tu me trompes Est-il ce visage le même visage qui chaque jour entretenait sous son toit 10 000 hommes? Est-ce bien ce visage jadis semblable au soleil faisant siller qui le contemple? Ce visage qui, à tant de folie, fit riant visage avant que l'éclipse enfin le visage de Bolingbroke. Une gloire fragile brille sur ce visage. Fragile comme la gloire est le visage. Car le voilà brisé en cent éclats. Note, roi silencieux, la morale de ce jeu. Que ma douleur bien vite a détruit mon visage.
Weep you no more, sad fountains. What need you for so fast? Look how the snowy mountains, heaven's sun doth gently waste. But my son.
Jean-Louis Barrault.
Pour essayer d'aborder Hamlet, il faut d'abord, essentiellement, il me semble avoir une âme chaste, un esprit pur. Et c'est par cette chasteté que Hamlet est révulsé par les scories de l'existence. Et c'est par cette chasteté qu'il est outré de la conduite de sa mère. Et c'est par cette chasteté qu'il est incapable de tuer son oncle, parce que faire une blessure dans le dos de quelqu'un, c'est sale. Et c'est encore cette chasteté qui lui permet d'avoir une amitié qui va aux confins de l'amitié particulière pour Horatio, car c'est un être pur.
Et pour conclure cette seconde émission sur le pouvoir chez Shakespeare, un autre fou lucide ou saint d'esprit qui joue au fou, écoutons la célébrissime tirade d'Hamlet.
To be or not to be, that is the question.
Lorsqu'il a découvert que sa mère et son oncle avaient comploté pour tuer son père afin d'accéder ensemble au trône et de s'y marier, il a décidé de feindre la folie en attendant de trouver un moyen de se venger et de dénoncer les régicides. Mais il se reproche aussi ce silence qu'il s'impose. Devrait-il choisir l'action immédiate, tuer les traîtres, ou encaisser et attendre son heure? Et pourquoi agir? Seul, sur scène, il réfléchit. Acte 3, scène 1.
Être ou ne pas être, c'est cela la question. Savoir s'il est plus noble pour l'esprit d'endurer les coups de fronde, les flèches de l'outrageuse fortune, ou de prendre les armes contre une mer d'épreuves et s'y opposant les finir. Mourir, dormir, pas plus. Et par un sommeil dire qu'on met fin aux angoisses et aux mille atteintes naturelles dont hérite la chair. C'est un achèvement à désirer avec ferveur. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. Et c'est là qu'on achoppe, dans ce sommeil de mort, ce qu'il se peut qu'on rêve quand on s'est évadé du mortel tourbillon nous force à réfléchir. C'est d'y avoir égard qui fait si longue vie à la calamité. Car qui voudrait du fouet et des mépris du monde, de l'injuste oppresseur, de l'orgueil insultant, des affres de l'amour dédaigné, des lenteurs de la loi, de la morgue des gens en place, des rebuffades que reçoit des médiocres le mérite patient, quand il pourrait lui-même se donner son quitus avec une simple lame, qui supporterait ses fardeaux? Pour gémir et suer, accablé par la vie, n'était que la terreur d'un après de la mort. Pays inexploré, confins d'où ne revient nul voyageur, laisse perplexe le vouloir, et fait que nous souffrons plutôt nos maux à nous que de voler vers d'autres qui nous sont inconnus. La conscience fait ainsi des poltrons de nous tous. Et la couleur innée de la résolution pâlit sous la pensée qui la rend maladive. Alors les entreprises capitales et de poids, détournant leur courant à voir ce qu'il en est, perdent le nom d'action.
Ça peut pas faire de mal.
Cette deuxième émission sur Shakespeare en partenariat avec le magazine littéraire a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Jean-Michel Bernaud. Merci. Merci aussi à celles qui l'ont préparée, Estelle Gap, Laura Elmaki et Isor Pisani-Ferry. Et enfin, un immense merci à tous les deux, Florence Viala et Eric Ruff.
Merci à toi, Guillaume.
Merci.